vais encore remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus, c'est vrai pour la grâce qu'il y a d'être ensemble. Et c'est vrai que ce que nous avons chanté, nous voulons le vivre, être ces vases que tu remplis Seigneur de ta présence. Et Seigneur, ce temps que nous allons passer, nos vies, nous les mettons à part pour toi. Et ce que nous te demandons Seigneur, c'est de prendre la place dans nos cœurs, de prendre la place dans cette réunion. Et Seigneur, de déverser, c'est vrai, ta grâce et ton onction, pour que nous puissions être à la fois transformés, mais aussi remplis de toi, Seigneur, pour que vraiment ton nom soit glorifié, et que celui qui a besoin d'une grâce encore ce soir puisse la recevoir de ta part. Tu as dit de demander, et que si ensemble nous nous unissions pour te demander quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutais, tu nous le donnais. Alors merci Seigneur Jésus pour cette soirée, et merci pour ta grâce qui est répandue, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole dans le livre de l'Apocalypse. Et on va ce soir continuer un thème qu'on avait pris à propos du chandelier d'or. Alors on va reprendre la lecture principale. Je vais résumer un petit peu la prédication de la dernière fois, rapidement. Et puis ensuite on continuera. On continuera cette prédication. Vous savez que Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, va dire « Je suis la lumière du monde ». C'est-à-dire que c'est lui qui éclaire. Mais ensuite, il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, il y a l'apôtre Jean qui a une vision, et il va la raconter au verset 9. Donc Apocalypse, chapitre 1er, verset 9, il va dire « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or, sur la poitrine. » C'est le Seigneur Jésus. Verset 19, Jésus va dire « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, et le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. » Ensuite, au chapitre 2, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Dans son texte, on voit que les églises, c'est les sept chandeliers. Donc une église, un chandelier. Nous sommes une église, nous sommes un chandelier d'or. On avait vu que un chandelier, c'est quoi ? Bah, c'est la lampe de l'époque, une lampe. À quoi ça sert une lampe ? Ça sert à éclairer quelque chose. Vous êtes d'accord ? Donc l'église, elle a un but, c'est d'éclairer quelque chose. On a vu que les sept chandeliers étaient autour de Jésus. C'est-à-dire que le but des églises, toutes réunies, en fait c'est le même but, c'est d'éclairer Jésus-Christ. Et je pense que c'est ce que l'on veut. Quand on se réunit, que l'église que nous sommes, on a un but, c'est que les gens qui viennent au milieu de nous, qui sont au contact de nous, puissent être au final au contact de Jésus. Et que ce que l'on veut, en tant qu'église, c'est pas que l'on parle de notre église, du nom que l'on a, Assemblée de Dieu, Toulouse-Saint-Agne, c'est pas que l'on parle d'un homme, quel que soit le pasteur que ça puisse être. Ce que l'on veut, c'est que l'on parle de Jésus-Christ. Et ce que l'on veut, c'est que Jésus-Christ soit au centre de l'Église. On veut que ça soit lui qui soit vu, on veut que ça soit lui qui soit reconnu, on veut que ça soit lui qui soit glorifié, et on veut que les gens qui viennent ici soient à son contact. Vous êtes d'accord avec cela? Bon. Mais est-ce qu'on y arrive toujours? Est-ce qu'on y arrive toujours à ce que la lumière soit toute la lumière soit sur Jésus-Christ? Est-ce qu'on arrive toujours à ce que Jésus soit glorifié dans nos vies ou dans l'Église? Et si on est honnête, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et justement, à partir de cette image des chandeliers, on va en tirer des leçons qui vont nous permettre d'être un meilleur témoin de Jésus-Christ, qui vont nous permettre d'être encore plus comme Dieu veut que nous soyons, et puis surtout que Jésus soit mis encore plus en avant. Alors la première chose qu'on avait vue par rapport au chandelier d'or, on voit qu'il apparaît dans le livre de Zacharie au chapitre 4. On va pas le lire, mais on a vu que ce chandelier, il était alimenté en huile. Ça veut dire que pour briller, le chandelier, il avait besoin d'huile. Et on voit que ce chandelier, il avait aussi un vase. C'est-à-dire qu'il y avait, deux oliviers qui amenaient de l'huile. L'huile allait dans un vase, et puis ensuite le vase répartissait l'huile dans toutes les branches du chandelier. Et ça, on se rappelait qu'il y a un principe, c'est que l'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc on voit qu'il nous est dit qu'on sera des témoins, mais d'abord qu'il faut recevoir. Et au final, je ne peux être le témoin de Jésus-Christ qu'à partir du moment où je reçois de lui l'Esprit-Saint. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On voit que Jésus avait confié aux disciples la mission d'être un témoin, de parler de lui, de faire des disciples. Mais on voit que la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est attendre la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vrai que si on veut être un témoin, si on veut que Jésus soit le centre, si on veut que Jésus soit vu, si on veut qu'il soit éclairé, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Et dans ce chapitre de Zacharie, c'est là où l'ange dira à Zacharie qui a une vision « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et toute la force qu'on mettrait, tout le temps qu'on mettrait, tout l'argent qu'on mettrait pour qu'une âme soit convaincue ne servirait à rien. Mais un seul mot, inspiré par le Saint-Esprit, et le cœur le plus dur, il peut être terrassé. Le cœur le plus dur, il peut fondre. Mais ce qu'il nous faut, c'est la présence du Saint-Esprit. Et souvent, la question à nous poser, c'est pas est-ce que je brille correctement, est-ce que je fais les choses correctement, mais c'est est-ce que j'ai pris le temps de recevoir ou d'être sensible à la présence du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit, au travers de moi, fasse son travail. Au final, on ne peut pas faire l'œuvre de Jésus, mais on peut être un canal que le Saint-Esprit utilisera pour mettre la lumière sur Jésus-Christ. Ça, c'était le premier point. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que le chandelier, oui, il était alimenté en huile, mais l'huile, elle passait pas n'importe comment. Elle venait pas n'importe où. C'était un chandelier qui était d'or pur. Et l'or, ça nous parle de quoi ? L'or, ça nous parle de la sanctification, le fait d'être saint, d'être à part. Et comme le disait Jonathan dans les chants, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Et il vient là où au final, il y a la sanctification. Dans Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que sans sanctification, personne ne peut le voir. Mais s'il y a sanctification, alors on peut le voir. Et au final, on avait vu que la sanctification, c'est quoi ? Ben, la sanctification, c'est que à chaque fois que le Seigneur me montre dans ma vie quelque chose qui ne va pas, j'accepte que par sa grâce, il me transforme. Lorsqu'il y a une tâche que je fais parce que j'ai péché, j'accepte de non pas la garder, mais au contraire que le Seigneur me pardonne et puis surtout me transforme. Et on a vu au final que pour être saint, pour être pur, comment on le fait ? Ben, il faut garder une bonne conscience. Et pour garder une bonne conscience, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai péché, qu'à chaque fois que j'ai transgressé, j'ai fait quelque chose qui l'a attristé, ben, tout simplement, je lui demande pardon. Son sang me purifie de tout péché et je reste saint. Et à partir du moment où j'accepte ce processus de rester saint, de continuer à rester pur et à ne pas me souiller avec le péché, alors le Saint-Esprit m'utilise et m'amène plus loin. Voilà, ça c'était les deux points qu'on avait vus précédemment. Maintenant, on va voir un autre aspect du chandelier qui va nous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Et ça, on peut le retrouver dans le livre de l'Exode, au chapitre 37, où on retrouve ce chandelier. Donc dans Exode, chapitre 37, et on va lire à partir du verset 17. Exode 37, 17. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du côté de l'un, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté, etc. On voit Après, au verset 22, les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce, il était tout entier d'or battu, d'or pur. Dans ce texte, il nous est dit qu'il y avait une caractéristique du chandelier, c'est qu'il était d'une seule pièce. Verset 17, tout était d'une même pièce. Verset 22, les pommes, les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Ça veut dire que le chandelier, à la base, c'était une seule pièce qui a été façonnée. C'est-à-dire, au début, c'était un seul morceau. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de l'unité. Oui, il y avait plusieurs branches, mais il y avait une seule pièce. Et au final, cette image, on la retrouve dans la Bible plusieurs fois. On a par exemple l'image du corps. Vous savez, un corps, c'est plusieurs membres, mais qui forment un seul et unique corps. Et pour l'Église, la leçon, c'est quoi? C'est que si on veut que l'Église reflète Christ, c'est important qu'au milieu de nous, il y ait l'unité. Il est important qu'il y ait l'unité. Et si je veux qu'il y ait l'unité, il faut que je travaille à cela. Vous êtes d'accord avec moi? Si je veux que l'Église soit unie, il faut que j'y travaille. Alors comment on fait pour que l'Église reste unie et soit vraiment un tout? La première chose que l'on peut voir, c'est que pour que autant de personnes aussi différentes, qui viennent de tant de pays différents, de tant d'arrière-plans sociaux différents, puissent être unis, c'est l'œuvre de Jésus. Et je pense que si on veut que l'Église soit unie, il faut toujours travailler à ce que Jésus soit au centre. Ne le cherchez pas, mais dans Éphésiens au chapitre 2, il est écrit ceci. C'est Paul qui parle donc à l'Église d'Éphèse, et il va parler des chrétiens qui avant étaient juifs, et des chrétiens qui avant étaient païens, c'est-à-dire qui n'étaient pas juifs. Vous savez que Jésus a dit que quand il est venu sortir les juifs de leur bergerie, mais qu'après, il y aurait d'autres bergeries d'où il tirait les brebis et il ferait un seul et même troupeau. Ça, c'est l'image des juifs qui, quand ils se convertissent, il est plus juif, il est chrétien, et que n'importe quelle autre personne du païen qui se convertit, ça devient un seul et même troupeau. Et dans Éphésiens donc 2 au chapitre 13, il est dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. On voit que ce qui unit, ce qui renverse le mur qui met une séparation entre les gens, c'est la croix. Vous savez, à l'époque, s'il y avait bien deux types de personnes qui étaient dures à concilier, à harmoniser, c'était bien les juifs et les païens. Ils se supportaient pas. Mais on voit, l'apôtre Paul dit que, à cause de ce qui s'est passé à la croix, le mur de séparation a été brisé. Et qu'au final, par la croix, il nous a réconciliés l'un et l'autre. J'ai regardé dans le dictionnaire, réconcilier, c'est quoi? C'est remettre en accord, en harmonie, des personnes qui étaient brouillées. Et c'est vrai que souvent, quand il y a des conflits, quand il y a des divisions, quand il y a un moment, il y a un peu du trouble dans l'Église, c'est quoi la solution? C'est la croix. Et la solution pour l'unité dans l'Église, ça sera toujours, et ça restera toujours, la croix. À la croix, on voit que Jésus, il a détruit le mur. C'est pas, il va le détruire. C'est, il a détruit le mur. Le mur qui nous séparait déjà de Dieu. Vous savez, c'est un moment, dans Ésaïe, il est écrit, mais c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et on voit qu'à la croix, bien que nous étions ennemis, Jésus est mort pour nous. Et au final, il a choisi de s'humilier et de payer le prix pour que ce mur de séparation, cette inimitié, soit brisé. Et bien dans l'Église, c'est pareil. Si on veut qu'il y ait la paix, il faut que accepter le pardon. Lorsque Jésus a dit « pardonne-leur », il a rétabli l'unité entre nous et Dieu. Et celui qui saisit le pardon, il n'est plus séparé de Dieu. Il retrouve la communion, l'union. C'est pareil dans l'Église. Si on veut qu'il y ait l'unité dans l'Église, le ciment entre les uns et les autres, c'est le pardon. Et si à un moment je refuse de pardonner à celui qui m'a offensé, alors je contribue à diviser. Mais si, comme le maître, j'accepte de pardonner, alors je contribue à l'unité. Vous comprenez? Et au final, c'est quoi qui divise? C'est le péché, c'est les offenses, mais c'est quoi qui ramène la paix, qui ramène l'unité? Eh bien, c'est le pardon. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Eh oui, si on veut que les gens soient au contact de Jésus qui pardonne, si on ne se pardonne pas entre nous, ça va être compliqué. De professer que Dieu pardonne, si nous, on n'est pas capable de nous pardonner les uns les autres. Les gens ne peuvent pas le voir, le Seigneur Jésus. Alors que quand on manifeste la grâce de Jésus au travers de nos vies, lorsqu'on manifeste le pardon quand on nous a offensés, quand on nous a fait du mal, comme nous on l'a fait à Jésus, parce que c'est nos péchés qui l'ont crucifié, mais lui il a dit pardonne-leur, alors on manifeste un trait de caractère de Christ, et au final, qu'est-ce qu'on fait? On rend visible la vie de Christ en nous. Et ceux qui le voient sont touchés. Ça vous est jamais arrivé de côtoyer quelqu'un qui était spirituel, et au final, au travers de lui, de voir un aspect de Christ, et au final qu'on soit bouleversé? Eh bien, c'est le but de l'Église. Et si dans l'Église c'est la guerre, les âmes ne rencontreront pas Jésus. Mais si dans l'Église il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a le pardon, parce qu'il n'y a que le pardon qui unit, alors les gens ils vont être touchés. Ils vont être touchés. Donc on peut trouver l'unité en pardonnant, en travaillant au pardon. Ensuite, il y a un autre point, c'est qu'on peut trouver l'unité, et il nous est dit, on va le lire ensemble, c'est dans Éphésiens au chapitre 4. Pour être unis, bah c'est comme dans un corps. Pour que le corps il puisse rester entier, il faut qu'il y ait la même nature, le même ADN, si vous voulez. Vous savez, quand on fait une greffe et qu'on ajoute un corps étranger, bah, s'il ne vient pas de nous-mêmes, que fait le corps? Il a tendance à le rejeter. Le corps, il accepte que ce qui a la même nature que lui. Vous êtes d'accord? Et c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas été régénéré, il ne peut pas être assimilé par le corps. Et si le corps l'assimile, il en devient malade. C'est pour ça qu'il faut que ceux qui fassent partie du corps de Christ soient vraiment sauvés. Mais dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 1er, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité par le lien, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On voit ici qu'il nous est parlé de l'unité de l'esprit. Et c'est vrai que, tout simplement, si on veut qu'il y ait l'unité, il faut chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet aussi d'être unis. C'est la manifestation de la présence de Christ au milieu de nous. Et là, il nous est dit de vous efforçant, donc c'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire, de conserver l'unité de l'esprit. Ça ne nous est pas dit de créer l'unité. Il nous est appelé à la conserver. Ça veut dire que Dieu nous donne l'unité, mais nous, notre responsabilité, c'est simplement de la conserver, de la garder. Alors on peut se poser cette question, mais est-ce que je fais mes efforts pour conserver l'unité que Christ a mis dans l'Église? Ou est-ce que je contribue à ce qu'il y ait le contraire de l'unité? C'est quoi? Bah, c'est des clans, des groupes, des divisions. Donc dans Proverbes au chapitre 16 au verset 28, il est écrit « L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis ». Vous avez vu, le rapporteur divise les amis. Si je rapporte les fautes de l'un, les fautes de l'autre, vous savez pas ce qu'il a fait, Jonathan? Ce sera entre nous. Non, il a rien fait. Mais si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je divise. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous avez vu? À un moment, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, c'est-à-dire la construction, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et au final, c'est ça, travailler à l'unité. C'est ne pas diviser aussi. si je travaille à ne pas diviser, vous savez, des fois, il y a des choses qu'on pourrait dire. Si je les dis, je sais très bien que je vais diviser. Jonathan, si tu savais ce qu'Olivier a dit sur toi. Non, mais je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que si je le rapporte, clac, je vais faire une division. Et c'est comme ça qu'il y a des clans. Et c'est comme ça, au final, que ça paralyse l'œuvre de Christ dans l'Église. Et vous savez que ça, le diable, il le sait. Hein. À un moment, Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pas écrit le royaume de l'ennemi, c'est tout royaume. C'est-à-dire que ça s'applique aussi au royaume de Dieu. Si on se divise, on peut pas subsister. À un moment, c'est écrit dans les Galates, je crois, prenez garde de vous, ne vous mordez pas les uns les autres, de peur d'être détruits les uns par les autres. Et si on veut que Jésus-Christ soit manifesté au milieu de nous, nous devons travailler à l'unité. Et on voit qu'il y a des conflits, que ça peut arriver, qu'on peut être spirituel, que deux personnes peuvent être spirituelles et pourtant avoir des conflits. Par exemple, dans les Philippiens, Paul il va dire à un de ses collègues, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. » Donc il y avait deux personnes qui avaient combattu pour l'Évangile, qui étaient en conflit, mais il va le demander à la personne qui va recevoir la lettre de les aider à résoudre le conflit. Donc on voit que cet homme-là, il était un instrument pour l'unité. Donc ça peut arriver les conflits, mais ce qu'il faut nous, c'est de travailler à l'unité. Quand je sais qu'il y a un différend entre deux personnes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de l'huile sur le feu? Pas de la bonne huile. Hein. Ou est-ce que, au contraire, je vais travailler à la paix, travailler à communiquer la grâce, travailler à rappeler ce que Jésus a fait pour l'un, Jésus a fait pour l'autre. En tout cas, le diable, il désire une chose, oui, c'est diviser. Mais Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en harmonie. Dans Matthieu 18, verset 19, il dira, « Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, et littéralement c'est se mettre en harmonie, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, on pourrait dire sont unis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus dira, Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme ça que tous savent que l'on est ses disciples. Et au final, on voit que ce chandelier, il avait sept branches, mais qu'il était pleinement uni. Et vous savez, on peut être différent, et on n'a d'ailleurs pas besoin d'être identique pour être uni. Mais par contre, on peut avoir différentes formes, différentes fonctions, différentes sensibilités, mais quand il y a la croix qui est au centre, quand il y a le pardon, quand il y a le même esprit, alors on peut être pleinement uni, pleinement uni. Une petite remarque, l'unité, ce n'est pas le compromis. Hein, tout à l'heure, couvrir une faute, oui, mais une faute réglée. Mais c'est pas pour, si au désir de l'unité, je couvre des péchés dans l'Église, au final, je chasse la présence de Dieu. Ce qu'il faut dans l'Église, c'est qu'on soit pleinement unis, mais dans la vérité et dans l'obéissance. Si je sais qu'un frère fait un péché, ben, il faut le régler. Je peux pas, au nom de l'amour et au nom de l'unité, laisser certaines choses être faites, c'est pas possible, il faut le dire. Mais quand on voit la discipline de l'Église, d'abord si ton frère a péché, va et reprends-le, donc déjà je le reprends lui seul. S'il ne m'écoute pas, j'y vais avec deux ou trois personnes, je ne vais pas le dire à toute l'assemblée. Puis s'il n'écoute pas, après je le dis à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit comme un païen. Mais dans quel but? Dans le but qu'il soit sauvé, qu'il prenne conscience qu'il suit une mauvaise voie pour qu'il reste avec nous. Donc régler le péché, c'est travailler à l'unité. Laisser le péché, c'est travailler à la division. Attention, parce que pour certains, ce que je viens de dire aurait pu être utilisé pour couvrir le péché. Non. Mais par contre, quelqu'un qui avait péché, qui a réglé le péché, ou justement quand on est allé le voir en aparté, l'a réglé, ben si je couvre cette faute-là, c'est bon. Mais si je rappelle ce qu'il a fait et que je le dis à tout le monde, je travaille à la division. Et je ne fais pas l'œuvre de Dieu, bien au contraire, je fais l'œuvre de Satan. Un autre point par rapport au chandelier, c'est qu'on voit que par deux fois dans le passage d'Exode que l'on a lu, que le chandelier était d'or battu. Ah, attention, ça c'est la partie qui fait pas plaisir. Dans Exode 37, ouais, il est dit que par deux fois le chandelier était d'or battu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et littéralement, c'est de l'or martelé. Ça veut dire que le chandelier, oui, c'était une seule pièce, mais c'est à coup de marteau qu'il a pris sa forme. Bon, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. L'or battu, ça nous parle des épreuves. Et on voit que dans la Bible, les épreuves, elles ont deux buts. Dieu permet des épreuves dans nos vies. Il permet les épreuves dans nos vies pour nous façonner. Et parce qu'en fait, le Seigneur veut que l'Église que nous sommes, et même nos vies, ait la forme que l'on doit avoir. Et la deuxième chose, c'est que les épreuves, il les utilise aussi parce que c'est des révélateurs qui montrent ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, les épreuves qui nous façonnent. Donc on voit que le chandelier, donc à coup de marteau, il a été formé. Mais le marteau n'a pas servi à détruire. Le marteau a servi à former. Et quand Dieu permet des épreuves dans notre vie, ce n'est pas pour nous déformer, mais c'est pour nous former. Et c'est pour que nous ayons, que Christ soit formé en nous. Il y a un texte dans le livre aux Hébreux, on peut aller le lire ensemble. Au chapitre 12, verset 5, Hébreux 12, 5. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. » Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. On voit dans cette image qu'il ne nous est parlé pas du marteau, mais de la verge. Mais on voit qu'au final, c'est un peu la correction. Vous savez, corriger un enfant, c'est quoi? C'est simplement rectifier des choses pour que plus tard, pendant qu'il est encore malléable, on va dire, pour que plus tard, il est là, il se détourne pas du droit chemin. Vous êtes d'accord? Alors attention, hein. Corriger, c'est là quand il s'est parlé de frapper de la verge, c'est pas un homme qui laisse cours à sa colère via la violence. C'est pas du tout ça. La correction, c'est un acte d'amour. C'est justement parce qu'on aime l'enfant que on le corrige. Ben c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous corrige. Et vous savez, des fois, on n'a pas forcément la bonne forme. Des fois, on est pas très droit, quoi. Hein? Le cœur de l'homme, il est tortueux, il est pas droit. Alors que fait le Seigneur? Il nous corrige. Et des fois, ça arrive que dans nos vies, il y arrive des épreuves, non pas parce que le Seigneur veut nous abîmer ou nous détruire, mais parce que le Seigneur, il veut que l'on s'éloigne du mauvais chemin, et ce qu'il veut, c'est former Christ en nous. Vous savez, Dieu ne fera jamais rien pour nuire à ses enfants. C'est lui qui a souffert pour que nous, on ne souffre pas. Dieu ne nous fait pas souffrir pour le plaisir, mais des fois, il permet la souffrance parce qu'elle produit en nous quelque chose qui est bon. Et c'est vrai que si on veut être un témoin, si on veut que Christ soit formé en nous, si on veut que les gens à notre contact voient Christ, il faut bien qu'on soit formé. Et pour être formé, il y a besoin d'épreuves. Et au final, on voit au verset 8 que ces épreuves-là, c'est même la preuve que nous sommes chrétiens. Parce que si on n'a pas part à la correction, c'est qu'on n'est pas ses enfants. Et souvent, on pose la question, mais comment je peux être sûr que je suis chrétien? Si il vous corrige, vous êtes sûr que vous l'êtes. Si vous savez, quand on fait des erreurs, le Seigneur, il vient et puis il nous corrige. Alors des fois avec douceur, des fois c'est un peu plus sévère, mais au final, ça nous forme. Et une fois formé, on reflète Christ. Mais si je veux être une de ces personnes qui reflètent Christ, il faut qu'elles acceptent aussi le façonnage. Je ne suis qu'un vase que tu as façonné. Eh oui, si je veux être ce vase, il faut que je sois façonné. Et pour terminer, Les épreuves, oui, elles nous façonnent, mais les épreuves aussi, c'est ce qui sert à révéler Christ. Et on voit que dans la Bible, toutes les personnes qui sont passées par l'épreuve parce qu'elles étaient intègres, ça, c'est pas l'épreuve pour former, c'est l'épreuve, enfin, quoique, c'est mélangé. C'est une épreuve pour former, mais surtout une épreuve parce que ils étaient intègres, par exemple Job, par exemple Joseph. On voit que ces épreuves ont été utilisées pour que les autres puissent voir Christ et puissent être encouragés. On voit que pour Job, Dieu a permis une épreuve, mais à la fin, il dira « mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu ». On voit que pour Joseph, Dieu a permis une épreuve, mais cette épreuve, elle a servi à ce que sa famille soit sauvée et à ce que Dieu soit glorifié. Et pour terminer, j'aimerais juste rappeler l'épreuve des, vous savez, les amis de Daniel, quand il y avait ses trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, et le roi voulait qu'il se prosterne, un roi, Nebuchadnezzar voulait qu'il se prosterne devant lui, et ils n'ont pas voulu, parce qu'ils étaient intègres, et ils ont voulu obéir. Et parce qu'ils ont voulu obéir, ils ont eu une épreuve. Il y a une fournaise qui a été chauffée, et c'était une fournaise qui était bien chauffée d'habitude, qui là était 7 fois plus chauffée. Et on va pas lire le texte, mais quand ces trois hommes ont été jetés dans la fournaise, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ceux qui l'ont jeté dedans sont morts, par l'épreuve. Mais il nous est dit qu'il y a deux choses qui se sont passées, que notamment leurs liens ont été brûlés. Ça c'est ce qu'on a vu avant, l'épreuve qui permet que certaines choses, on en soit débarrassé, on est formé. Mais il nous est dit que lorsque les trois sont tombés dans la fournaise, il y a un quatrième qui est devenu visible. Pourtant, c'était Jésus, c'était l'image de Jésus. Pourtant, Dieu était déjà avec eux, avant qu'ils rentrent dans la fournaise. Mais quand ils ont été mis dans la fournaise, le roi a vu, la présence de Dieu s'est rendue visible au roi, à tel point qu'il en a été troublé. Au final, il y a eu l'épreuve, ce qui a été brûlé, c'est ce qui n'allait pas, c'était les liens. Eux, rien n'a été brûlé. Et en plus de cela, le roi qui était mauvais, instantanément, il a vu Dieu et il a dit « Je reconnais qu'il n'y a pas un Dieu comme celui de Shadrach, Meshach et Abednego. » Et des fois, c'est vrai que Dieu permet des épreuves dans nos vies parce que par ces épreuves, ceux qui nous entourent, ceux qui nous connaissent, ceux qui voient l'épreuve, reconnaissent que dans l'épreuve, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se manifeste, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que le chandelier était d'or battu. Et si l'on veut que les autres, que la vie soit manifestée aux autres, que les autres le voient, il y a certains moments où il faut accepter l'épreuve. Parce que c'est au milieu de la fournaise, 7 fois chauffée, que Jésus-Christ se rend visible aux autres. Et c'est vrai que quand on passe par des épreuves, qu'il y a la paix, qu'il y a la grâce, qu'il y a l'amour du Seigneur, qu'il n'y a pas la haine face à la haine, ou des choses comme cela, les autres voient Jésus-Christ. Et bien qu'il en soit de même dans notre vie, c'est que lorsque le Seigneur permet des épreuves, bien que nous soyons intègres et droits, que cela puisse servir à la gloire de son nom. Et au final, l'épreuve ne les a pas détruits, bien au contraire. L'épreuve a servi à la gloire de Dieu. Et on voit que c'est un principe biblique. À chaque fois que Dieu permet une épreuve dans la vie d'un de ses enfants qui est intègre, c'est pas pour détruire, au contraire c'est pour former, mais aussi pour que les autres voit Christ, et c'est comme cela qu'on devient ce chandelier, cette lampe qui éclaire le Seigneur Jésus. Amen.